Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Nous allons lire les 6 premiers versets. Apocalypse, chapitre 20. Nous allons lire les versets 1 à 6. Voici la parole de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jusque-là, la lecture de la parole. Quand on vient à étudier un texte, que ce soit le texte qui est devant nous ce matin ou tout autre texte de la parole, les questions les plus importantes et les plus les plus directes sont souvent les questions les plus simples. Premier mot sur la feuille. On pose la question qui ou quoi ou comment ou pourquoi. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, tout simplement. Nous allons poser ce genre de questions. Et avec tout ce que nous avons déjà vu, tout le contexte de ce livre de l'Apocalypse et ce que nous avons déjà vu, nous allons simplement laisser le texte nous répondre aux questions que nous allons poser. Jean commence donc notre partie. Nous allons voir ce matin les versets 4 à 6. Jean commence par ces mots. « Et je vis des trônes. » Et cela nous amène à la première question. Où ? Où sont ces trônes ? Selon le point de vue prémillénariste, je rappelle que les prémillénaristes disent que le Seigneur Jésus-Christ vient avant les 1000 ans. Il vient, il y a une période de 1000 ans et ensuite il y a le jugement, et c'est le point de vue sans doute le plus répandu dans le monde évangélique aujourd'hui. Selon ce point de vue prémillénariste, ces trônes sont sur terre. Étant donné donc que pendant les 1000 ans, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens fidèles règnent avec Christ sur terre. Mais cela pose bien sûr des problèmes, parce que, notamment à cause de ce terme, de ce mot « trône » qui est utilisé dans le livre de l'Apocalypse. Ce mot « trône » au singulier ou au pluriel, on le retrouve à 47 reprises dans le livre. Et à part quelques exceptions, les trônes sont au ciel, deuxième mot sur la feuille. En 3 exceptions, le mot va décrire les trônes de Satan et de la bête. Et dans ce cas, les trônes sont sur la terre, chapitre 2, chapitre 13, chapitre 16. Et au chapitre 22, que nous verrons plus tard, il y a 2 références au trône de Dieu après la mise en place des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et en dehors de ces 5 références, toutes les autres références au trône placent les trônes au ciel. On voit l'agneau sur son trône. On voit le Seigneur Jésus-Christ sur son trône. On voit les anges au début du livre qui représentent l'Église, qui sont assis sur des trônes. Et ces trônes sont tous dans la présence de Dieu au ciel. Et cela accomplit en fait la promesse que le Seigneur Jésus-Christ avait faite en Apocalypse 3, dans la lettre adressée à l'église de Laodicée, au verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le trône du Père est au ciel. Et donc l'accomplissement de cette promesse se passe au ciel. Mais les primillénaristes ne se démontent pas et ils vont dire que ces trônes sont venus sur terre à cause du règne terrestre du Seigneur Jésus-Christ après son retour. Mais ça pose encore des problèmes. Regardez le verset 4. Jean dit qu'il a vu des âmes, troisième mot sur la feuille. Il a vu des âmes, les âmes de ceux qui avaient été décapités, assises sur les trônes. Ce sont des âmes. Donc ça ne se passe pas sur terre. Alors les primillénaristes vont dire, oui, mais le terme grec qui est traduit ici par âme peut ne pas se limiter à l'âme, mais elle peut aussi décrire une personne. Et même en français, le terme, par exemple, on peut parler d'une commune de 500 âmes, par exemple. Et là, le terme parle de personne. Et c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais ici, il est clairement question d'âme, puisqu'on parle d'âme de ceux qui ont été décapités, donc de personnes qui sont mortes. Il y a eu une séparation entre le corps et l'âme. Et de plus, cette vision n'est pas indépendante. Elle est liée à toutes les visions, à tout le contexte que nous sommes en train d'étudier. On parle aujourd'hui de connexion, d'objets connectés. L'Apocalypse est interconnecté. Par exemple, au chapitre 6 et au verset 9, Jean a écrit ce qu'il a vu à l'ouverture du cinquième sceau, rappelez-vous. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il les a vus sous l'autel au ciel. Et cette description rejoint la description que nous avons ici au chapitre 20, verset 4. Ils sont décapités, les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est les mêmes personnes. Elles sont au ciel. Et quand on regarde au verset 5, on voit le contraste, quatrième mot sur la feuille, le contraste entre ces âmes, les âmes de ceux qui avaient été décapités, avec les autres morts. Et donc, il est question ici de personnes qui sont décédées. Et cela souligne donc que Jean a une vision des croyants, des saints qui sont dans la gloire. Des chrétiens qui sont morts, qui sont maintenant dans la présence du Seigneur Jésus dans la gloire. Où sont ces trônes? Au ciel. Deuxième question. Quand? Il est question ici d'une période de 1000 ans. Donc, quand est-ce que cette période a eu lieu? On a répondu la dernière fois. En étudiant, quand on a étudié les versets 1 à 3, ces 1000 ans décrivent l'ère de l'Église, cinquième mot sur la feuille, la période entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son retour. Et nous sommes dans cette période. Nous sommes dans cette période pendant laquelle l'adversaire, Satan, a été lié et qu'il ne peut pas séduire les nations. L'Évangile se répand, l'Évangile se propage dans le monde. Et cette période prendra fin au retour du Seigneur Jésus-Christ quand il revient pour juger le monde et prendre avec lui son peuple. Et pendant cette période qui est décrite symboliquement par cette expression 1000 ans, le Seigneur Jésus-Christ règne. Il règne sur toute chose, c'est lui qui ouvre les sceaux. Et où est-ce qu'il règne? Il règne au ciel, depuis son trône qui est au ciel. Et puisque les âmes sont avec lui, ces âmes sont au ciel. Et ceci nous dit en fait que ce passage des versets 4 à 6 est une contrepartie de ce qui est décrit dans les versets 1 à 3. Nous avons ici la perspective céleste de ce qui se passe sur terre et qui a été décrit dans les versets 1 à 3. Et dans ce passage, nous avons ce que beaucoup appellent l'état intermédiaire, sixième mot sur la feuille. Et voilà la question, est-ce que nous savons où vont les âmes après la mort? Quand un croyant meurt, quand un chrétien décède, son âme quitte immédiatement le corps. Qu'est-ce qui se passe? Et cette vision nous donne la réponse. L'âme du croyant, après la mort et avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, est dans cet état intermédiaire. On ne devient pas des anges, comme certains le pensent. On ne vole pas sur de petits nuages blancs avec des petites ailes dans le dos, comme certains l'ont représenté. Et ce n'est pas non plus une existence qui est barbante, loin de là. Non, le croyant qui meurt connaît la séparation de l'âme et de son corps, et l'âme revient immédiatement à la vie pour être avec Christ au ciel, pour être assise sur un trône pendant toute la durée de l'ère de l'Évangile, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et après le retour du Seigneur Jésus-Christ, les croyants dans un corps glorifié régneront avec lui sur la nouvelle terre. Mais avant cela, durant cet état intermédiaire, l'âme des croyants est avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel pendant toute cette durée de 1000 ans. Où ? Au ciel. Quand ? Pendant cette période. Pendant cette période avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela nous amène à la troisième question. Qui ? Qui sont ceux qui sont décrits dans cette vision? Et au minimum, il s'agit des martyrs, septième mot sur la feuille, de l'âme des martyrs, de ceux qui ont été tués à cause de leur témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Alors, bien sûr, certains prémillénaristes vont dire que cette vision, que les visions nous montrent que les martyrs reçoivent une récompense spéciale lors de la résurrection au retour du Seigneur Jésus-Christ, et que ce sont eux, les martyrs, qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et d'après eux, c'est une raison importante, primordiale pour la raison de ce règne de 1000 ans. C'est une récompense pour les martyrs. Les dispensationalistes, une version du prémillénariste, ont différents points de vue, mais eux vont dire qu'il ne s'agit pas des martyrs, mais qu'il s'agit plutôt des guerriers victorieux du chapitre 19, puisque eux prennent le livre de manière chronologique. Et que ce sont eux qui remportent, en ayant remporté la victoire avec Christ, avancent avec lui pour régner et juger la terre pendant 1000 ans. Mais de qui s'agit-il réellement? J'ai dit, là, Jean a la vision des âmes, des martyrs, de ceux qui sont morts à cause de leur foi. Et les lecteurs de Jean du 1er siècle auront très bien compris le message de l'apôtre et le message du Seigneur Jésus par la plume de l'apôtre. Dans cette période, et tout au long de l'histoire en fait, les vrais héros étaient ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie, huitième mot sur la feuille, à cause des témoignages de Jésus. Les vrais héros étaient ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie. Rappelez-vous que ce livre a été écrit vers l'an 95. Et Jean se rappelle du temps où il était aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. et qu'il a vu de lui-même le début de la persécution. Jean-Baptiste, qui était prêt à proclamer l'évangile, même dans la présence même du roi Hérode, Jean-Baptiste a été décapité. Le frère de Jean, l'apôtre Jacques, connaît le même sort, acte 12. L'apôtre Paul, selon la tradition, a lui aussi été décapité lors de la persécution de Néron. Et la plupart des premiers responsables chrétiens de l'Église ont connu une mort violente à cause du témoignage, à cause de la parole de Dieu. On pourrait ajouter l'apôtre Pierre, crucifié à Rome, ou Jacques le Juste, le frère de Jésus, qui a été lapidé à Jérusalem. Et quand l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, il est le dernier des apôtres. Il est le seul encore vivant, le seul qui n'a pas été mis à mort. Lui, il a été exilé sur l'île de Patmos. Il n'a pas été mis à mort. Et il écrit parce qu'il s'adresse à une église qui doit faire face à la persécution. Et beaucoup de croyants allaient mourir à cause de leur foi, parce qu'ils n'allaient pas brûler de l'encens sur l'autel de l'empereur, parce qu'ils n'allaient pas dire « Oui, César est Seigneur ». Ils allaient connaître une mort violente, parce qu'ils allaient affirmer que le seul Seigneur est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, César est empereur, mais seul Jésus-Christ est Seigneur et Fils de Dieu. Et la question pour les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, et pour nous encore aujourd'hui, est celle-ci. Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que cela vaut la peine de perdre sa vie sur ce qu'on dirait aujourd'hui des points de doctrine? Et un commentateur nous donne la réponse. Il dit « L'Église peut voir ses âmes régner dans le ciel avec Christ, de concert avec tous les chrétiens décédés qui ont confessé leur Seigneur sur la terre. » Jésus dit en quelque sorte aux croyants « Quelques années de souffrance ici-bas, mais là-haut, dans ce pays meilleur, 1000 ans de vie et de règne avec Christ. » Quel réconfort! S'agit-il d'un réconfort réservé pour les martyrs, pour ceux qui sont morts d'une mort violente? Non, parce que Jean ne se limite pas à décrire les martyrs, l'âme des martyrs. Le verset 4 continue. Il parle de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Alors, encore une fois, certains veulent voir ici deux groupes bien distincts, mais tout au long de ce livre, Jean n'a cessé de parler que d'une église. Et la caractéristique de cette église, c'est sa fidélité, neuvième mot sur la feuille. Et la fidélité à Christ, la fidélité à l'évangile va amener le martyr, va amener l'opposition. Il s'adresse à une église qui souffre, une église qui est persécutée tout au long de l'histoire, encore aujourd'hui. Mais ce qui caractérise la véritable église du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa fidélité à Christ. Sa volonté de ne pas suivre ce monde dans son idolâtrie et dans sa rébellion contre Dieu. Le triomphe du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement partagé avec les martyrs, mais il est partagé avec tous les croyants, avec tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui, sous l'influence de la bête, ont souffert parce qu'ils voulaient rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette fidélité à Christ, et non pas leur manière de mourir, c'est cette fidélité à Christ qui les qualifie à partager le règne avec Christ. Est-ce que les croyants ont tout perdu à cause de leur fidélité à Jésus-Christ? Non, ils ont au contraire tout gagné, dixième mot sur la feuille. Ils ont gagné le royaume, ils ont gagné la royauté, ils ont gagné le triomphe avec Christ. De qui s'agit-il donc ? Il s'agit des âmes des croyants, fidèles au Seigneur Jésus-Christ, qui sont maintenant dans cet état intermédiaire, qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui attendent la résurrection, mais qui sont dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais la question suivante est tout simplement quoi ? Quoi ? Quand les âmes, j'envoie les âmes des croyants auprès du Seigneur Jésus-Christ sur les trônes, il appelle la récompense des croyants, la première résurrection, 11e mot sur la feuille. La vision prémillénariste de l'histoire va dire que cette expression au verset 5, « Ils revinrent à la vie », implique obligatoirement une résurrection physique. Et les prémillénaristes enseignent que lorsque Jésus-Christ revient, ce sont donc ici des croyants qui ont connu la réunion de leur âme avec leur corps, qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et ce n'est que 1000 ans plus tard que les corps des incroyants sont ressuscités pour être unis à leur âme et jugés. Les prémillénaristes donc voient l'histoire ainsi, le retour de Christ, les croyants ressuscités, et après 1000 ans, les incroyants sont ressuscités. Et la force de cette argumentation, elle vient du fait qu'elle fait remarquer un parallèle entre les croyants au verset 4, dont il est dit qu'ils revinrent à la vie au début des 1000 ans, et les incroyants, verset 5, dont il est dit qu'ils ne revinrent pas à la vie lorsque les 1000 ans étaient accomplis. Donc ils ne revinrent à la vie que lorsque les 1000 ans étaient accomplis. Et les prémillénaristes soulignent que le même mot en grec, la même construction de phrase, est utilisée dans les deux cas. Et donc, si on retourne au chapitre 2, le même mot est utilisé pour décrire la résurrection physique du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 8, « Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. » C'est le même mot en grec. Et donc, les prémillénaristes posent la question suivante. Ils disent, mais comment est-ce qu'on peut démontrer qu'un mot au verset 5, qui parle d'une résurrection physique, parlerait au verset 4 d'une résurrection spirituelle ? Voilà l'argumentation des prémillénaristes. Ils disent que si l'expression « revenu à la vie » décrit une résurrection physique, alors cette première résurrection doit être la restauration du croyant qui retrouve son corps physique après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et puis après 1000 ans, il y a une deuxième résurrection pour le corps des incroyants. Et le même genre d'argumentation est utilisé pour le terme « résurrection » dans les versets 5 et 6. On a déjà dit que le point de vue amillénariste est la meilleure interprétation. Ces 1000 ans sont une représentation symbolique de l'ère de l'Église et non pas une période littérale. Alors comment répondre donc à l'argumentation des prémillénaristes ? Tout d'abord, il faut remarquer que nulle part dans la Bible il est question d'un intervalle, d'un entracte de 1000 ans entre la résurrection physique des croyants et celle des incroyants. En fait, tout le Nouveau Testament va écarter cet enseignement. Matthieu 25, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ parle de son retour. Il dit que la conséquence immédiate de son retour, c'est le jugement final. Matthieu 5, verset 31-32, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Tous seront là, sans exception, les croyants et les incroyants. Il n'y a pas d'intervalle entre le retour du Seigneur Jésus-Christ et le jugement final. Il n'y a pas d'intervalle entre la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Jean 5, versets 28 et 29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc séparer le retour du Seigneur Jésus-Christ et le jugement final en ajoutant un intervalle de 1000 ans, séparer la résurrection des justes avec celle des injustes par un intervalle de 1000 ans, ça contredit l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est beau, et pour, rien que pour cette raison-là, il faut rejeter l'enseignement prémillénariste. Mais de plus, les interprètes amillénaristes soulignent que les deux mots utilisés dans ce passage, qui sont traduits par « revenu à la vie » et « résurrection », sont souvent utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire une réalité spirituelle, 12e mot sur la feuille. Alors bien entendu, ils décrivent une réalité physique, mais ils sont utilisés très souvent pour décrire une réalité spirituelle. Paul, Romains 6, le passage que les enfants, c'est Emma qui a cité tout à l'heure, c'est un verset un peu avant, Romains 6, verset 4, Paul parle du changement que Dieu opère dans la vie du croyant, et il le compare à une résurrection. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et Paul utilise le langage pour parler d'un changement radical qui s'est opéré dans la régénération, la nouvelle naissance. Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Il parle de nouvelle naissance, il parle de conversion, et il utilise le langage résurrection. D'autres passages décrivent cela, décrivent cette réalité. Et le passage peut-être auquel on pense, c'est celui de Jean 11. Jean 11, versets 25 et 26, le Seigneur parle à Marthe et lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il parle de ce changement, de réalité spirituelle. Et de plus, dans l'Apocalypse 20, les versets 5 et 6, quand Jean mentionne la résurrection, il précise qu'il parle de la première résurrection. Alors les prémillénaristes vont lire cela et ils pensent que cela doit dire qu'il y a une première résurrection, la résurrection des corps des croyants, suivie d'une deuxième résurrection 1000 ans plus tard, la résurrection des incroyants. Mais encore une fois, dans le contexte de l'Apocalypse, Jean fait un contraste, comme il va faire un contraste au chapitre 21 entre la première terre la nouvelle terre, entre les premiers cieux et les nouveaux cieux. Et Jean fait un contraste ici. Seul le chrétien, seul celui qui est uni à Christ par la foi, connaîtra l'expérience de deux résurrections. La première résurrection, la résurrection de son esprit pour régner avec Christ dans le ciel. La deuxième résurrection lors de la résurrection de toute chair pour le jugement final au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et les experts prémillénaristes vont insister que l'expression « revenir à la vie » doit être utilisée de la même manière dans les deux versets, versets 4 et versets 5. Et ils disent, puisqu'au verset 5, cette expression décrit une résurrection des incroyants pour le jugement final, alors cette expression doit avoir le même sens au verset 4. Mais ces experts prémillénaristes ne voient pas que l'apôtre Jean n'est pas en train de faire une comparaison parallèle, mais est en train de faire un contraste. 14e mot sur la feuille. Il est en train de faire une opposition. Et ce que Jean veut souligner ici, c'est que le croyant, en souffrant, en étant mis à mort à cause de sa foi en Christ, connaîtra une résurrection que l'incroyant ne connaîtra pas. Mais au retour du Seigneur Jésus-Christ, l'incroyant connaîtra une résurrection pour le jugement et la mort éternelle, ce que le croyant ne connaîtra pas. Le croyant connaît la mort dans cette vie. Il connaît la résurrection spirituelle de son âme pour être avec Christ. L'incroyant ne connaît pas la résurrection qu'à la fin de l'histoire. Et là, c'est pour connaître le jugement et la mort. Et à cause de ce contraste que Jean veut mettre en avant, il utilise le même mot, mais de façon différente. L'un, au verset 4, parle de résurrection spirituelle des âmes, des croyants, qui se reviennent à la vie pour être auprès du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. L'autre parle de la résurrection physique des incroyants pour le jugement et l'enfer. C'est quoi donc cette première résurrection? C'est la résurrection à la vie qui est réservée aux croyants, aux saints qui sont morts. Ce n'est pas la résurrection des corps, puisque celle-là aura lieu au retour du Seigneur Jésus-Christ. Non, mais à la mort du croyant, son âme est séparée d'avec son corps et l'âme revient à la vie au ciel pour être avec le Seigneur Jésus-Christ et régner avec lui. C'est la première résurrection qui représente le passage des âmes de cette terre pécheresse au ciel saint de Dieu, nous dit un commentateur. Les croyants reçoivent la couronne, le trône sur lequel ils règnent avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils revinrent à la vie, nous dit Jean, et ils régnèrent avec lui pendant 1000 ans. Et nous avons dit qu'il y a une connexion avec Apocalypse 6, verset 9, l'ouverture du cinquième sceau. Les âmes que Jean a vues sous l'autel. Et la différence, c'est qu'au chapitre 6, on voit ces âmes qui sont sous l'autel dans le ciel. Et nous avons dit qu'ils sont sous l'autel à cause de leur association avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont au ciel à cause, 15e mot sur la feuille, à cause du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, au chapitre 20, ces mêmes martyrs qui sont assis sur le trône ont le même message. C'est le message d'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu et ils sont assis sur les trônes. Et le message donc est clair, souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ, souffrir à cause du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, cela revient à dire régner avec lui. Quand l'âme ressuscite pour être au ciel avec lui. Cela nous emmène à la question suivante, comment? Comment les chrétiens règnent-ils avec le Seigneur Jésus-Christ après leur mort? Et Jean répond au verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et le point central ici, c'est que les chrétiens qui meurent règnent comme sacrificateurs, 16e mot sur la feuille, comme sacrificateurs dans la présence de Dieu. Et cela nous renvoie à ce que nous avons vu au début du livre. Rappelez-vous, chapitre 1er, versets 5 et 6, ce cantique qui s'élève à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous, quoi? Un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà notre destinée. Voilà ce que Israël devait être, un royaume, devait être des sacrificateurs pour Dieu. Mais voilà ce que Christ a fait de chacun des siens, de son Église, et qui accomplit sa tâche parfaitement au ciel. Il n'est pas étonnant donc que Paul écrive aux Philippiens, chapitre 1er, verset 21, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » C'est vrai que quand le chrétien meurt, il laisse derrière lui des amitiés, des relations, des choses qu'il aurait aimé faire. Mais pour le chrétien, la mort est un gain. Et Paul de rajouter en Philippiens 1, verset 23, « J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Ce qui de beaucoup est le meilleur. C'est le témoignage du croyant, de celui qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et on ne doit pas penser que le chrétien qui meurt ne fait plus partie de l'équipe, qu'il est rangé au vestiaire. Non, Hébreux 12, par exemple, verset 1, nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il nous exhorte à courir dans cette course. Ici, en Apocalypse 20, verset 4, nous avons les âmes des croyants qui règnent en tant que sacrificateurs dans la présence de Dieu. Alors, bien entendu, nous ne devons pas adresser nos prières aux croyants qui sont partis, qui sont maintenant dans la présence de Dieu. Mais, pour autant, les croyants qui sont morts, qui sont dans les âmes sont dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas mis de côté sur une étagère en attendant le jour de la résurrection. Non, ils sont dans un lieu d'influence. Ils sont dans la présence même de Dieu. Ils sont assis sur des trônes, et cela pendant toute l'ère de l'Évangile, pendant les 1000 ans. Et le verset 4 précise que c'est à eux que fut donné le pouvoir de juger. Alors, la manière dont les saints au ciel jugent n'est pas précisée ici, mais au minimum, on peut dire que les saints qui sont au ciel approuvent, 17e mot sur la feuille, approuvent le jugement du Seigneur Jésus-Christ, approuvent le règne du Seigneur Jésus-Christ pendant cette période. Il participe, il règne avec lui. Mais cette déclaration de que le pouvoir de juger leur a été donné reflète en fait le souci de tout le livre de l'Apocalypse, le souci pour la justice. La mort de l'apôtre Paul aux mains de Néron est injuste. La mort des premiers lecteurs de l'Apocalypse allait être injuste. Aujourd'hui, nous luttons contre l'injustice de ce monde qui s'oppose, qui persécute les croyants, qui persécute l'Église. Mais ce livre nous rappelle que Dieu n'oubliera pas la cause de la justice. Les lecteurs de ce livre pouvaient se rappeler de connaissances, d'amis, de parents qui étaient morts à cause de leur foi et qui allaient souffrir, eux aussi, d'une manière injuste. Mais ce livre, cette vision rappelle que maintenant, ceux qui sont morts à cause de leur foi sont maintenant assis sur les trônes. Ce sont eux qui exercent un jugement avec Christ. Comment règne-t-il, comment les croyants règnent-ils avec Christ ? Le verset 6 nous dit « heureux et saints ». Heureux et saints. Oui, leurs corps ont été détruits sur terre, mais leur âme est maintenant dans la présence bienheureuse du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Ils sont entrés dans la bénédiction de cette communion spirituelle intime avec le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et Jean précise au verset 6 que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alors les chrétiens meurent comme tous les êtres humains, mais l'âme du croyant est séparée du corps, elle est élevée au ciel, elle attend la résurrection du corps, mais elle attend sans craindre une autre expérience de la mort, parce qu'elle ne mourra pas. Quand un croyant meurt, nous savons que pour lui la mort a été un transfert immédiat de son âme au ciel. C'est pour ça que David, dans le psaume 23, il dit que nous traversons la vallée de la mort, nous marchons dans la vallée de la mort, vers le 19e mot sur la feuille. On ne s'y arrête pas. On ne s'y arrête pas. Et ce n'est pas la fin du psaume. Le psaume continue. Le croyant ne s'arrête pas. L'âme du croyant qui meurt est immédiatement ressuscitée en Christ. Elle est placée sur le trône. Et elle règne avec Christ pendant toute cette période de 1000 ans, sachant que la mort, qu'elle ne connaîtra plus la mort, sous aucune forme que ce soit. Mais pour ceux qui ne sont pas unis à Christ par la foi, le sort est tout à fait différent. L'âme de l'incroyant va en enfer. Et la résurrection du corps de l'incroyant va le mener à la deuxième mort, la mort éternelle. On verra plus loin dans ce chapitre. Croire au Seigneur Jésus, c'est connaître la première résurrection, mais jamais la deuxième mort. Elle n'a point de pouvoir sur elle, sur les croyants. Alors que ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ ne connaissent pas la première résurrection. Mais ils sont condamnés à connaître la deuxième mort, la mort éternelle. Quelqu'un l'a résumé de cette manière. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus ressuscitent deux fois, mais ne meurent qu'une fois. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus ne ressuscitent qu'une fois, mais meurent deux fois. Pourquoi ? Dernière question. Pourquoi cette vision nous est-elle donnée ? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire ? Il me semble que la réponse est claire. C'est que le Seigneur Jésus-Christ veut encourager son peuple. 20e mot sur la feuille. Il veut encourager son Église, son peuple dans ce monde qui doit faire face à des luttes. Et le Seigneur Jésus-Christ connaît nos luttes. Il voit la persécution, il sait que nous allons connaître la persécution d'une forme ou d'une autre. Il connaît l'opposition de ce monde. Il sait que ce monde peut, dans certaines occasions, nous tuer, enlever notre vie. Mais il veut que nous connaissions, que nous sachions la vérité au sujet de cette vie après la mort, au sujet de la gloire qui attend les siens. Et Paul a pu dire en 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Pour le croyant, la mort est effectivement un gain. Elle est un gain qu'il doit désirer plus que tout, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans sa lettre aux Philippiens. Voilà ce qui nous attend si nous sommes à Christ et si le Seigneur Jésus-Christ tarde à revenir. Le jour où nous mourrons, où ce corps sera détruit d'une manière ou d'une autre, notre âme sera élevée de suite, ressuscité, revenu à la vie dans la présence même du Seigneur Jésus-Christ. Et où nous régnerons avec lui, sans crainte de connaître la mort. Mais ceux qui ne sont pas à Christ, qui vivent pour ce monde et pour les plaisirs de ce monde, eux ne connaîtront pas la résurrection de leur âme. Mais lorsque le jour du jugement arrivera, le corps sera ressuscité et eux, ils connaîtront la deuxième mort, la mort éternelle. Que Dieu donc nous parle au travers de sa parole et qu'il nous pousse à désirer le Seigneur Jésus-Christ, à être trouvé en lui pour être uni avec lui, non pas seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.